Bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver si nombreux ce matin du jeudi de l'Ascension et nous remercions tout spécialement les organisateurs. Quel travail et quel courage il vous a fallu de venir par ce déluge, ce temps impossible. Il pleut des cordes, nous risquons l'inondation, mais vous êtes tous là. Heureux de rencontrer des amis de longue date, autant aussi à ceux que nous rencontrons, que je rencontre pour la première fois. Les réunions projetées sont des études sur le prophète Élie. Ce matin, nous parlerons d'Élie, et cet après-midi, nous continuerons cette étude. Nous ne la finirons pas aujourd'hui, peut-être faudra-t-il attendre l'année prochaine. Je voudrais ce matin parler du prophète Élie sous un titre un peu original, « Le premier pont aérien du monde ». Et je lis ce texte dans le dixième chapitre du premier livre des Rois. Je lis que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, au roi Akab, « L'Éternel est vivant ». Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Le prophète Élie est un personnage si important à la fois dans l'Ancien Testament, où il apparaît comme le plus grand des prophètes entre Moïse et Jean-Baptiste, et dans le Nouveau Testament, où son nom prestigieux revient plusieurs fois, qu'il vaut la peine de s'attarder quelque peu pour le présenter. Bien que son ministère couvre un laps de temps relativement court, sa vie a été si fructueuse en interventions de toute espèce qu'elle nous offre une biographie extrêmement riche en matériaux. L'étude de la vie du prophète aura toujours un accès auprès d'une très large audience. Elle est pour ceux qui sentent combien difficile le service chrétien, et s'il y a parmi nous des amis qui sont dans ce cas, ils trouveront un encouragement à l'étude de la vie de ce prophète. Elle est aussi pour ceux qui se sentent seuls dans le travail de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont engagés en solitaire dans le travail du Seigneur, et ils sont tentés de dire, comme Élie, « Je suis resté seul ». Bien sûr que des milliers d'Israël, il y en avait 7000 qui n'avaient pas ployé les genoux devant Baal, mais où étaient-ils? Élie ne les connaissait même pas. Ils se cachaient, eux, et leurs témoignages. Ainsi, l'étude de la vie du prophète est utile pour ceux qui sont ou qui se croient seuls. Cette étude est aussi pour ceux dont la patience est mise à l'épreuve et qui voient peu de résultats. La patience du prophète, son endurance, son obéissance et son triomphe final seront un grand encouragement. Cette étude est aussi pour ceux qui sentent que ce qu'ils font a peu d'influence sur l'apostasie. 7 mauvais rois s'étaient succédés en Israël depuis Jéroboam, et Akab et sa terrible femme Jézabel, à eux seuls, faisaient plus de mal que les 7 autres ensemble. La nation d'Israël était submergée par le flot de l'idolâtrie, la condition morale et spirituelle du peuple était déplorable. Et cinquièmement, cette étude est aussi pour ceux qui ont failli. Et qui n'a pas failli dans sa vie? Dans ce qui nous est rapporté, il y a un incident regrettable, mais là aussi nous y trouverons une aide précieuse. Dans l'épître de Jacques, il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, ou selon une autre version, qui avait les mêmes passions que nous. Nous serions tentés de croire à un géant, une sorte de colosse, un homme avec un cœur comme le mont Sinaï qui bat à coups fracassants comme le tonnerre quand il gronde. C'est la première impression que nous avons de lui. Mais derrière cette grande image, il y en a une autre. C'était un humain comme vous et comme moi, un homme de la même nature avec les mêmes passions que nous. Il ne nous est rien dit de sa naissance et de sa jeunesse. Il avait probablement des parents pieux, il était Tishbite de Galaad, et son nom veut dire « Dieu est ma force ». Mais si nous ne savons rien de la première partie de sa vie, nous pouvons être sûrs que Dieu le façonnait en vue du jour où il allait faire son apparition sur la scène prophétique. Souvenez-vous que c'est dès le sein de sa mère que Saul de Tarse a été mis à part pour le service de Dieu. Et dès lors, tout dans sa vie, jusqu'à sa haine contre les premiers chrétiens, tout a servi plus tard pour le service auquel Dieu allait l'appeler. Et je pourrais témoigner de la même chose. Quand je repense à ma vie, à mes années d'autrefois, au chemin par lesquels je suis passé, bien que ne connaissant pas Dieu, je peux dire que Dieu était à l'œuvre et que tout a servi pour une préparation à son service. Aussi, chaque expérience que nous faisons est une préparation pour le travail qu'il nous réserve. Et avec Dieu, les moments d'attente ne sont pas des moments perdus. Pour Dieu, les 40 années que Moïse a passées au désert ne sont pas moins importantes que les 40 années qu'il a passées à la cour du Pharaon. Ce qui caractérise Élie, c'est sa séparation radicale d'avec le mal ambiant. Tout le caractère et le ministère du prophète se trouvent résumés dans cette parole de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5 et verset 11, « Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » L'homme tout entier, le ministère tout entier d'Élie est dans ces paroles. « Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ces paroles sont écrites en lettres de feu dans sa vie. Élie, c'est ce roc qui fait trébucher ceux qui s'y achoppent et qui écrase ceux sur qui ils tombent. La référence est Matthieu 21, verset 44. Élie est aussi l'homme qui a été nourri 3 fois de façon surnaturelle. Une première fois par les corbeaux, une deuxième fois par la veuve de Sarepta, ce sera d'ailleurs le sujet de cet après-midi, et une troisième fois par des anges. Et cela nous apprend que toutes les sphères de la vie sont au service de ceux qui servent Dieu. Cela nous réapprend cette affirmation de l'Épître aux Romains chapitre 8 et verset 28, « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses. Les inférieurs comme les corbeaux, les égales comme la veuve de Sarepta, et les supérieurs comme les anges. L'histoire du prophète Élie pivote autour de 2 ordres qu'il a reçus de la part du Seigneur. Au chapitre 17 et au verset 3, l'Éternel lui dit « Va, cache-toi près du torrent ». Au chapitre 18 et au verset 1, l'Éternel lui dit « Va, « présente-toi devant Achab ». Voilà les 2 grands pôles de sa vie. Va, cache-toi. Va, montre-toi. Va, cache-toi, c'est l'aspect, disons, privé de son ministère. C'est aussi le département de notre vie où il n'y a rien de spectaculaire. C'est ce côté dont parlent les apôtres dans le livre des Actes au chapitre 6. Il y a aussi le ministère de la parole. La prière, c'est le côté caché. C'est le « va et cache-toi » d'Élie. le ministère de la parole, c'est le côté public. C'est le « va, montre-toi » qui est aussi le « aller jusqu'aux extrémités du monde et prêcher l'Évangile ». Je voudrais, dans le même ordre d'idées, dire à nos amis qui ont ouvert cette rencontre en nous ravissant par leur chant, vous avez accompli le deuxième point, vous vous êtes montré en public, et nous vous en remercions. Mais puis-je vous poser une question ? Avant de vous présenter publiquement ce matin parmi nous, y a-t-il eu le premier point ? Vous êtes-vous présenté secrètement devant le Seigneur ? Je l'espère, je le suppose. Avant le côté visible, y a-t-il eu ce côté caché, où l'on se met secrètement devant Dieu et où on lutte et parle avec lui ? Il y a-t-il eu le « va, cache-toi » avant le « va, montre-toi » ? S'il n'y a pas eu l'un, l'autre sera fatalement inefficace, même quand il s'agit de présenter la parole de Dieu par le chant. Nous allons à présent voir pourquoi Dieu a envoyé son prophète au torrent de Kérit. Il y a quatre raisons. La première, c'était pour le protéger des réactions qui n'allaient pas manquer de se faire jour. Écoutez le message du prophète et vous comprendrez les terribles réactions qui allaient suivre. 3 années de sécheresse dans un pays qui dépendait de la pluie du ciel pour survivre. Et le message était d'autant plus terrible qu'il était né dans la prière. Ah, mes amis, les messages qui percutent dans les consciences, les messages qui bouleversent les hommes, ce sont ceux qui sont nés dans la prière. Quelqu'un va peut-être dire, mais n'y a-t-il pas dans l'initiative du prophète quelque chose à la fois d'insolite et de cruel ? Y allait y avoir perte de cheptel, perte des récoltes, et peut-être même allait-il y avoir perte de vies humaines ? Mais ce qu'il est important de considérer, c'est que le prophète demandait tout simplement que Dieu honore sa parole. Et je vais vous lire dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11, le verset 16. Dieu parle, c'est lui qui parle, et voici ce qu'il dit. « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. » C'était en fait la demande de l'accomplissement de la loi. C'était terrible, oui, bien sûr, mais c'eût été encore bien plus terrible si, après la prédiction, il n'y avait pas eu d'accomplissement. Déjà le débordement ne connaissait plus de bornes. Déjà ils avaient saccagé tout ce qui rappelait le nom de Yahvé en Israël. La situation serait devenue sans remède. Alors Élie est allé l'annoncer à Akab. Élie, voyez-vous, c'est une sorte de Jean Calvin. Il connaissait la pensée de Dieu. Il était jaloux de l'honneur et de la gloire de Dieu. Il prie Dieu pour qu'il accomplisse sa parole et il va l'annoncer à Akab. La première raison pour laquelle Dieu l'envoie au torrent, c'est pour le couvrir de sa protection. Savez-vous que, nous aussi, nous avons besoin du torrent de Kérit. Nous avons besoin de la protection de Jésus-Christ. Nous avons à annoncer un message qui n'est pas toujours perçu par le monde rebelle comme la bonne nouvelle de l'Évangile, mais comme une condamnation sur son genre de vie, donc c'est une odeur de mort. Et le porteur de ce message s'expose, comme Élie, à des réactions violentes et à la désapprobation du prince des ténèbres. C'est pourquoi Jésus, en parlant à Pierre, a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Nous avons besoin de nous réfugier dans l'intercession et dans les bras du Seigneur. Et Jésus est le torrent de Kérit qui nous abrite et qui nous couvre. La deuxième raison pour laquelle Dieu l'envoie au torrent de Kérit, c'est pour le préparer à d'autres services. Dieu avait en réserve des tâches plus grandes pour son prophète. Et cela nous est illustré dans la préparation graduelle d'Élie dans les trois repas qu'il a pris. 1. Du bec des corbeaux. 2. De la veuve de Sarepta. 3. Des anges. On peut dire qu'Élie n'était pas prêt à recevoir le repas de la main de la veuve avant de l'avoir reçu du bec des corbeaux. Et qu'il n'était pas non plus prêt à accepter le repas de l'ange tant qu'il n'était pas passé par les deux étapes précédentes. Et ma première conclusion est celle-ci, mes amis, non. Non, dans le service de Dieu, on ne brûle pas les étapes. Élie n'a pas commencé par les anges, puis la veuve et fini par les corbeaux. C'est le sens inverse. D'abord les corbeaux, puis la veuve de Sarepta, et puis seulement après les anges. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'Élie pensait des corbeaux avant d'avoir été nourri par eux? Eh bien, moi, je crois qu'il n'en pensait pas grand-chose de bien. Tout d'abord, en tant que juif et par sa formation religieuse, il considérait les corbeaux comme des animaux impurs. Il ne lui serait jamais venu à l'esprit d'en mettre un à la casserole. Et puis, sa vie trop vieux, c'est trop coriace. Non, il ne pensait pas beaucoup de bien des corbeaux. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'Élie pensait des corbeaux après avoir été nourri par eux? Eh bien, je suis convaincu qu'il n'a plus jamais regardé un corbeau du même œil. Et c'est une grande leçon pour nous. Nous aussi, nous avons cette tendance naturelle à considérer comme impur et intouchable tout ce qui n'est pas nous-mêmes. C'est ainsi que l'assemblée à laquelle j'appartiens a été critiquée par des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. C'est étonnant comme nous tenons en piètre estime des chrétiens que nous connaissons mal ou que nous ne connaissons pas. Et si Dieu nous place dans certaines circonstances, j'allais dire un jeu de circonstances, où la délivrance nous vient justement de la part de ceux que nous avons un peu méprisés ou ignorés, c'est pour nous faire la grâce de rentrer en nous-mêmes, et pour nous donner une vue élargie sur les choses, les gens et la vie, et c'est pour mettre dans notre vie ce qui lui manquait, c'est-à-dire une note de tendresse et de tolérance. Non seulement le prophète n'a plus jamais vu un corbeau du même œil, mais il ne les a plus jamais entendus de la même oreille. Certes, il a peut-être encore été agacé en entendant l'oiseau, paraît-il, le plus évangélique du monde, puisqu'il dit « crois, crois, crois ». Mais dans ses croassements, il y avait quelque chose qui lui rappelait une grâce divine. J'ai fait la même expérience. J'ai rencontré des amis, nos frères chrétiens, les gitans convertis. Quand on va chez eux, on est reçu fraternellement, chaudement, mais, oh mes oreilles, mes pauvres oreilles, ce qu'elles ont parfois été agacées par tout ce bruit qui se fait chez eux. Mais dites-moi, entre nous, après tout, est-ce que ce bruit ne rappelle pas une grâce divine? Autrefois, voyez-vous, il ne faisait pas de bruit quand il visitait les poulaillers. Mais maintenant, il faut un peu plus de bruit et il laisse les poules tranquilles. Ceci dit, j'aime quand même mieux le doux roucoulement de la colombe au cri désagréable de celui qui, selon Monsieur de La Fontaine, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. La troisième raison, c'est que Dieu veut le conduire plus loin. Il le conduira vers les païens, à Sarepta. Et non seulement Élie ne regardera plus les corbeaux du même œil, mais il ne regardera plus les païens du même œil. Remarquez aussi que, au fur et à mesure qu'il s'éloigne de ceux qui sont à Dieu par les promesses, par les alliances, par la loi, il se rapproche de ceux qui sont en dehors de ces choses. Voyez-vous, Élie est prophète non seulement par sa parole, mais il l'est aussi dans sa personne et dans sa vie. La pleine réalisation de ses expériences se retrouvera plus tard lorsque dans l'Épître aux Romains au chapitre 11 et au verset 11, l'apôtre Paul, parlant de la chute d'Israël, dira que par leur chute, l'Évangile est devenu accessible aux païens. Élie chez les corbeaux, mais c'est l'embryon de l'apôtre Pierre qui voit une nappe descendre du ciel et la voix du Seigneur qui lui dit « Pierre, tue et mange !» Élie chez la veuve de Sarepta, c'est en embryon Pierre qui est envoyé chez le païen Corneille pour y apporter l'Évangile, qui s'étendra jusqu'en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. La quatrième raison pour laquelle Dieu l'a envoyé au torrent de Kérit, et là, c'est grave, c'est que dans les temps d'apostasie, Dieu retire ses prophètes, le saviez-vous? Les prophètes ont toujours été envoyés pour ramener le peuple à Dieu dans les temps d'égarement. Mais quand l'égarement tourne à l'apostasie, il se passe ce que je vous lis dans le psaume 74 à partir du verset 7. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom, ils disent dans leur cœur, traitons-les tous avec violence, ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Ça, c'est l'apostasie. À présent, écoutez ce qui suit. Nous ne voyons plus de signes. Il n'y a plus de prophète, et personne parmi nous qui sache jusque à quand. Ah, mes amis, c'est un texte qui fait frémir. Il y a pis que d'avoir des prophètes qui nous tonnent les paroles de Dieu dans les oreilles. Il y a pis que d'avoir dans l'église, dans l'assemblée des anciens, qui font des grands moulinets avec la Bible et nous cognent avec elle. Il y a pis que cela. C'est justement de ne plus les avoir. Ces serviteurs que Dieu nous a envoyés, dont on a méprisé la parole, en temps d'apostasie, Dieu les retire. Et croyez-moi, le jour où Dieu les retirera, il enlèvera aussi sa parole, et nous risquons fort de nous retrouver avec un livre d'où toute substance spirituelle sera partie, même si c'est une meilleure traduction. Si Dieu retire sa lumière, la Bible deviendra obscurité. Si Dieu retire sa vie, le livre de vie deviendra un livre de mort. Avant d'aller plus loin, je récapitule très brièvement ce que nous avons dit. Nous avons fait une introduction à la vie du prophète Élie. Nous avons dit que c'était un homme d'envergure, mais de la même nature et avec les mêmes passions que nous. Nous avons vu que l'histoire du prophète pivote autour de deux ordres, « Va, cache-toi, va, montre-toi ». Nous avons vu que le Seigneur l'envoie au torrent de Kérit pour plusieurs raisons, pour le protéger des réactions d'Akab, pour le préparer pour d'autres services plus grands, pour le conduire plus loin, et parce que, en temps d'apostasie, Dieu retire ses prophètes. Nous nous raccrochons à ce que nous avons dit, et nous allons maintenant voir ce qui s'est passé au torrent de Kérit. Le Seigneur a dit, va, cache-toi au torrent de Kérit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Et Dieu a été fidèle à sa promesse parce que Élie a eu une foi obéissante dans les promesses de Dieu. Tout dans le récit pivote autour d'une courte phrase et d'un tout petit mot de deux lettres. Si vous avez vos Bibles en main et un crayon rouge de préférence, je vous conseille d'encadrer ce petit mot de deux lettres. « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir où ?»« Là. » Je répète. « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Non pas n'importe où, non pas ailleurs, mais là où Dieu voulait qu'il soit. C'est la grande leçon que nous devons apprendre, c'est quand nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, qu'alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon Romains 8:28. C'est quand nous sommes là que Dieu pourvoit nos besoins selon ses richesses et avec gloire, selon Philippiens 4:19. C'est quand nous sommes là que Dieu dresse devant nous une table à la face de nos adversaires, selon le psaume 23, et que nous pouvons dire comme le psalmiste, « Je ne manquerai de rien ». Et c'est quand Élie fut là qu'il fut au bénéfice des provisions divines, et quand les corbeaux arrivèrent, Élie était en place pour les recevoir. Nous venons de voir la source de l'approvisionnement, c'est Dieu. Puis, les agents de l'approvisionnement, les corbeaux. Je voudrais maintenant que vous voyiez avec moi la régularité de l'approvisionnement. Deux fois par jour, le matin et le soir, dimanche compris. Livraison à domicile, franco de porc. Quand Élie se levait le matin, le petit déjeuner lui arrivait tout préparé par la voie des airs. Ce fut, je l'affirme, le premier pont aérien du monde. Et le soir, quand Élie allait se coucher, il n'y allait pas le ventre creux. Il ne philosophait pas en disant « Qui d'ordine, bon appétit !» en se serrant la ceinture d'un cran. Non, les repas qu'il recevait n'étaient pas moins réguliers que la manne au désert, et le Dieu de la multitude se révèle être le Dieu de l'individu. Le Seigneur prend soin d'un seul homme comme de 2 millions de personnes. Les forces qu'il met en branle ne sont pas beaucoup moins grandes, mais il le fait pour un homme qui a les mêmes passions que nous, mais qui est là, au centre de la volonté de Dieu. Récapitulons ce que nous venons de voir. La source de l'approvisionnement, c'est Dieu. Les agents de l'approvisionnement, ce sont les corbeaux. La régularité de l'approvisionnement, 2 fois par jour. Maintenant, la variété de l'approvisionnement. De l'eau du torrent, du pain et de la viande. Oui, chers amis, de la viande 2 fois par jour, le matin et le soir. Demandez-le un peu à Henri IV. Sa promotion sociale voulait que les paysans de France puissent manger la poule au pot 1 fois par semaine. Demandez-le à vos grands-parents. Il mangeait de la viande 1 fois par semaine, on l'achetait le samedi, on en mangeait le dimanche, et on finissait les restes le lundi, s'il en restait. Tandis que lui, Élie, avait de la viande 2 fois par jour. Il avait le petit déjeuner anglais, eggs and bacon. Il avait le dîner français. Il avait le meilleur de la cuisine de 2 grands pays, parce qu'il était là. Au centre de la volonté de Dieu. Ah, mes amis, cela valait beaucoup mieux que les 100 autres prophètes dont parle l'intendant du roi au chapitre suivant et au verset 13, et je vous lis. « N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel ? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne. et je les ai nourris de pain et d'eau. » Voyez-vous, parce qu'Élie était au centre de la volonté de Dieu, il recevait un régime complet. Les autres étaient au pain sec et à l'eau. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces 100 prophètes de l'Éternel n'avaient été qu'à mi-chemin dans leur témoignage. Aussi n'entrent-ils pas dans le triomphe des martyrs qui ont laissé leur vie ? Mais ils n'entrent pas non plus dans la plénitude d'Élie. Ils sont cachés dans une caverne où ils tremblent, une caverne qui ressemble à une prison, et ils n'y ont que le pain sec et l'eau de l'angoisse. Et cela, mes amis, c'est vrai pour nous. Il y a un triomphe et une plénitude de vie dans lesquelles les demi-mesures nous empêchent d'entrer. Nous recevons selon ce que nous sommes et où nous sommes, ou bien nous sommes là, au centre de la pensée de Dieu, ou bien nous en sommes un peu éloignés de ce centre, légèrement excentrés, ou pis encore, nous sommes carrément en dehors de ce centre, c'est-à-dire tout à fait excentriques. L'approvisionnement de Dieu pour nos vies, elle est là, entre les deux couvertures noires de ce livre que je brandis devant vous, c'est là que le Seigneur crée le pont aérien pour nos âmes. Et si vous aviez quelque peine à me croire, achetez une Bible avec une couverture noire comme la mienne et faites l'expérience que je fais maintenant devant vous. Entre le pouce et l'index, vous saisissez les pages intérieures. Et vous laissez libres les deux couvertures que vous agitez de bas en haut avec le pouce et l'index de l'autre main. Vous avez là le corbeau qui vole et vous apporte la nourriture qui est à l'intérieur. Oui, elle est là, cette provision de vie que le Seigneur tient en réserve pour nous. C'est là, dans les pages du livre, qu'est le royaume de Dieu, dont il est dit en Romains 14, verset 7, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Mais voyez-vous, il y a 3 approches possibles aux provisions de Dieu. 1. Il y a ceux qui n'y ont pas part. 2. Il y a ceux pour qui ce régime n'est que du pain sec et de l'eau. 3. Il y a enfin ceux pour qui cette provision est un repas complet, abondant, suffisant. Je reprends ces 3 points. Quels sont ceux qui n'y ont pas part? Ce sont ceux qui sont en dehors de la volonté de Dieu. L'Épître aux Corinthiens dit: l'homme charnel ne reçoit pas les choses spirituelles, il ne peut pas les comprendre. C'est comme Acab, la parole de l'Éternel n'était que condamnation pour lui. Puis, il y a ceux pour qui ces provisions divines ne sont que du pain sec et de l'eau. Ce sont ceux qui ne sont pas au centre de la volonté de Dieu. Ils n'entrent pas pleinement dans le royaume de Dieu. Il n'entre pas pleinement dans la paix, pas pleinement dans la joie, pas pleinement dans la justice. Ils ne vivent pas leur vie chrétienne pleinement. Certes, ils viennent bien à la Bible, occasionnellement, mais à quel régime leur manque de spiritualité les soumet-elle? Eh bien, au régime du pain sec et de l'eau, mes amis, il n'y a pas à sourciller. La Bible, la vie chrétienne, le service chrétien, pour certains, c'est un grand couvert avec un maigre repas. La Bible, Jésus-Christ, c'est une grande chose avec une petite signification. Alors on s'écrit, c'est fade. La Bible est fade, le culte est fade, la vie chrétienne est fade, Jésus-Christ est fade, et on devient comme les Israélites au désert qui appelaient la manne de Dieu cette misérable nourriture. Alors, que fait-on quand on est comme eux? Eh bien, on trouve que cette vie chrétienne manque d'assaisonnement, de piment, de crudité. Et comme eux, on se met à rêver aux poireaux, aux oignons, aux ailes, aux concombres du pays d'Égypte. On assaisonne la Bible et le culte et la vie chrétienne et le service de Dieu avec les piments du monde. Forcément, quand la Bible n'est plus suffisante, quand Jésus ne suffit plus, quand l'Église ne suffit plus, on fait alors un sandwich. On met une grosse tranche de mondanité par-dessous, une bonne tranche de pornographie par-dessus, et une mince feuille d'éternité au milieu. De quoi vous faire passer le goût de l'éternité. Et c'est ainsi que, si le monde a inventé l'homme sandwich, l'Église a maintenant inventé la Bible sandwich. J'ai entendu récemment que quelqu'un qui était ancien dans son Église, et bien sûr, je mets, vous le devinez, ancien entre guillemets, cet homme pouvait rester calé 8 heures devant la télévision et se vanter de connaître tous les Oscars décernés à toutes les vedettes du monde. Et tout, et tout. Comment pareil homme, repu des frivolités du monde et des immondices qui y sont associés, pouvait-il répondre aux qualifications exigées pour un ancien? J'extrais de la Bible, du livre de Tite, chapitre 1, verset 7 à 9, ces quelques paramètres. Il faut que l'ancien soit modéré, sobre, maître de ses sens, tenant ferme la vraie parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée, afin qu'il soit capable d'exhorter et de réfuter les contradicteurs. Mais que voulez-vous? Quand on n'a que du pain sec et de l'eau, il faut bien relever le menu, le goût. Et j'admets que certains livres et certains programmes sont très relevés, très corsés, parfois même sans corset. C'est très pimenté. Ah, mes amis, prenons garde qu'en fait de piment, la moutarde ne monte au nez de l'Éternel. Il pourrait nous en cuire. Et enfin, la Bible peut être pour d'autres un repas complet, abondant, régulier, varié, suffisant. La Bible et la vie chrétienne peuvent avoir un goût de plénitude, comme dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table ». Il n'est pas dit « Tu dresses devant moi une table avec mes adversaires, mais en face de mes adversaires ». Dites-moi, ce que je vous ai apporté ce matin, à votre avis, est-ce que c'était du pain sec et de l'eau, ou est-ce qu'il y avait quand même, disons, une bonne tranche substantielle à l'intérieur? Eh bien, je vais vous faire une confidence, si vous me promettez de ne pas le raconter. C'est promis? Eh bien, tous les jours de ma vie, il en est ainsi. Tous les jours, j'ai ma côtelette spirituelle. Mon eau a un goût de bon vin. Et mon pain, un goût de gâteau. Ce que je trouve dans la Bible, je ne les changerai pas contre tous les oignons, tous les poireaux, tous les concombres et tous les ailes du pays d'Égypte. N'importe lequel d'entre nous a droit au meilleur du régime de Dieu. Personne n'est dans l'obligation de s'en tenir au pain sec et à l'eau. Nous avons tous le même Seigneur, nous avons la même Bible, nous avons le même Saint-Esprit, nous pouvons tous prétendre au meilleur des provisions divines, aux meilleures découvertes, à ce qu'il y a de plus excellent dans le royaume de Dieu. Maintenant, comprenez-moi bien. Je ne veux pas dire que nous pourrions tous nous tenir sur cette estrade et parler. je ne veux pas dire que je pourrais vous parler tous les jours comme je le fais aujourd'hui. Non, je n'en ai pas l'envergure mentale. Je n'ai pas l'envergure suffisante pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ici, dans le secret de notre vie cachée, comme Élie au torrent de Kérit, la Bible, la vie chrétienne, la personne de Christ peuvent avoir un goût de plénitude. Et pour conclure, ce livre approvisionnement divin peut être ou bien un livre de mort, ou bien un livre d'eau et de pain sec, ou bien un livre d'abondance. À quoi cela tient-il ? À nous, à être là où Dieu veut que nous soyons. Il y a une seule place au monde où la bénédiction de Dieu est certaine, c'est d'être tout simplement au centre de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, si aujourd'hui vous avez retenu simplement ce petit mot de deux lettres, il peut vous ouvrir toutes grandes les portes donnant accès à la bénédiction de Dieu. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, avait dit le Seigneur. Imaginons qu'Élie n'ait pas été là, au rendez-vous divin, qu'il eût été quelques kilomètres plus loin. Quelles auraient été ses conclusions? Il aurait pu dire, les provisions de Dieu font défaut. Le Seigneur ne pourvoit pas mes besoins spirituels. Je me sens desséché à l'intérieur, ça ne marche pas dans ma vie. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'aurait pas été là, là où Dieu voulait qu'il soit. Il y a des vies chrétiennes déficientes, il y a des vies chrétiennes rachitiques, il y a des vies chrétiennes sans élan, sans dynamisme, sans progression, il y a des chrétiens qui ne sont pas conquérants. Mais la raison est très simple, toujours ce petit mot de lettres, c'est parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Alors, y a-t-il parmi nous de chers amis qui ont senti qu'au-delà de mes paroles, il y avait la parole de Dieu qui parlait à leur conscience? Qu'ils disent alors, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux être là. J'en ai assez d'une nourriture qui me paraît misérable, même si elle est ta parole. Je veux cette plénitude, je veux cette abondance de vie. Seigneur, je veux être plein de joie quand je me rends au culte. Je veux être comme David qui disait, « Je suis dans la joie quand on me dit, montons à la maison de l'Éternel. » Je veux qu'à nouveau, comme au début de ma conversion, je veux être rempli du désir de faire connaître l'Évangile au plus grand nombre. Seigneur, je veux te servir. Je veux qu'en plus de l'eau et du pain, il y ait de la viande dans tout ce que j'entreprendrai en ton nom. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de venir se recentrer là où le Seigneur nous a donné rendez-vous. Et pour en arriver là, il faudra peut-être... Ce sera l'occasion d'en parler cet après-midi. Il faudra peut-être que nous passions par un autre endroit, un endroit appelé Sarepta, où une croix rugueuse sera dressée. C'est là que le Seigneur nous donne rendez-vous, pour que nous nous repentions de nos égarements, de notre tiédeur, de nos coups roides. Si nous avons fait les frais d'une vie chrétienne languissante, il faut dire maintenant au Seigneur, « Je viens là, Seigneur, où tu veux que je sois, je m'humilie devant toi et je saisis ta promesse de restauration. Et Dieu, par son Saint-Esprit, déversera sur vous sa pluie abondante, sa bénédiction, et votre vie repartira comme elle est partie dans les premiers jours de votre conversion. » Alors, voulez-vous venir là, maintenant? Faites-le maintenant. Mes chers amis, frères et sœurs, nous nous inclinons tous dans la prière. Seigneur, Nous te remercions de nous avoir donné ce petit mot de deux lettres qui contient à lui tout seul tant de promesses et tant de bénédictions. Nous les voulons, ces bénédictions, nous en avons besoin, nous avons soif de plénitude. Seigneur, nous te demandons pardon de nos tiédeurs, de ces convoitises d'oignons, de concombres et de poireaux du pays d'Égypte. Tu nous as fait sortir de ce pays-là, mais ce que nous avons lâché en bloc le jour de notre conversion, il nous est parfois arrivé de le reprendre par le détail petit à petit, et nous en subissons les appauvrissantes conséquences. Seigneur, nous te demandons pardon de ce que parfois l'assemblée, le culte, l'étude de ta parole et ton service nous ont paru fades. Nous nous humilions parce que nous avons blâmé tes serviteurs et l'Église, parce que nous avons essayé de trouver la raison de notre tiédeur chez les autres, alors que c'était en nous, dans notre cou roide. Nous sommes parfois, Seigneur, de ces brebis égarées qui veulent suivre leur propre chemin, qui ne veulent pas être là où est le bon berger. Cependant, Seigneur, nous vibrons chaque fois qu'on nous parle de belles et grandes vies, lorsque nous entendons parler de ce souffle du Saint-Esprit qui régénère des vies et sauve des âmes, parce que tu as mis en nous ce désir d'être semblable à toi. Ô Seigneur, nous voulons ce renouveau, ce rafraîchissement. Nous te prions de nous aider à venir là, au pied de ta croix, où tu nous donnes rendez-vous, pour retrouver le centre géographique de ta pensée, pour que tu puisses nous bénir et nous combler. Nous croyons, Seigneur, que ce pont aérien existe toujours aujourd'hui, que ta parole est toujours un entrepôt de nourriture, et nous voudrions en être tout remplis et bénis pour être en bénédiction aux autres. Seigneur, accepte ce que nous venons de te dire, et donne des prolongements heureux à cette prière. Nous te le demandons ensemble, au nom du Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen.